La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils selon celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
J'ai envie de vous dire ce matin que je vous aime. Dans l'amour du Christ, nous sommes membres d'une grande famille et nous sommes liés par des liens extraordinaires. Des liens que le Christ a tissés entre les générations, entre les peuples, entre les sexes, entre tous, avec nos différences, avec nos singularités, avec nos qualités propres. Oui, je vous aime. Il est important, n'est-ce pas, de pouvoir exprimer ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on ressent, pour lui donner à son sentiment une consistance, une valeur, une réalité. Vous remarquez qu'au cœur du passage de l'apôtre, de cette épître de l'apôtre Paul aux Romains, il y a cet accent qui est mis sur le fait de dire l'Évangile, de dire ce qui est important, d'exprimer quelque chose. Et justement, j'aimerais mettre ce passage de l'épître de Paul aux Romains en parallèle avec un autre passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, au verset 25 et 26. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, donc, c'est le récit que nous fait Paul de l'institution de la scène. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et il ajoute, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je souligne ici le verbe annoncer. En prenant le pain, en prenant la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il est important d'annoncer Christ. Annoncer Christ de différentes manières. que ce soit par le culte, donc la prédication, les lectures bibliques, les chants, les prières, que ce soit par les rites, comme la scène, qui annonce la mort de Jésus, et en même temps, bien sûr, sa résurrection et son retour futur. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi la parole individuelle, personnelle, qui annonce Christ, le témoignage. Et remarquez que pour être sauvé, il faut être capable de dire quelque chose au sujet de Jésus. Il faut être capable de dire quelque chose au sujet de sa foi, déjà devant l'assemblée. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vous aime, un amour fraternel que je souhaite sincère. J'aurais aussi pu vous dire, je crois en Jésus qui est mort pour moi et ressuscité. Et qu'en lui, mes péchés sont pardonnés. Quand je dis les choses, je les confirme. Je donne du poids à ce que je crois. L'apôtre Paul est clair, il est inspiré. Il dit, si tu confesses de ta bouche, autrement dit, si tu déclares publiquement le Seigneur Jésus, et si tu crois bien sûr dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut passe par une déclaration publique. Quand on entre dans le mariage, on déclare aussi publiquement son amour. Quand on entre dans l'alliance avec Dieu, on déclare publiquement qu'on a reçu l'amour de Dieu et qu'on y a répondu. Et l'apôtre Paul d'insister, car si tu crois du cœur, tu parviens à la justice, mais c'est en déclarant publiquement, en professant de la bouche, que tu parviens au salut. Il faut que tu confirmes ce qu'il y a dans ton cœur par ce que tu dis. Vous n'avez jamais entendu votre, je parle aux hommes, votre femme vous dire, mais pourquoi tu ne me dis pas plus souvent que tu m'aimes? Ou si tu m'aimes, dis-le-moi. On aime l'entendre. On aime se réassurer dans la parole de l'autre, dans ce que l'autre va exprimer, de plus authentique, bien sûr, et de plus sincère. Et il dit donc, quiconque croit en lui ne sera pas confus, à condition qu'il exprime ce qu'il croit, qu'il exprime sa foi. Et ensuite, il continue dans sa réflexion, l'apôtre Paul, en disant, mais il y en a d'autres qui ont besoin de croire. Il y en a d'autres qui ont besoin de se tourner vers le Christ. Il y en a d'autres qui ont besoin de son amour. Il y en a d'autres qui ont besoin de sa grâce qui sauve. Il y en a d'autres qui ont besoin de l'Évangile. Alors, comment embrasseront-ils la foi si personne ne leur parle de Jésus? Et il y a une insistance sur le fait de parler pour que l'autre entende. Dans ce passage-là, qui nous a été lu par notre frère Jacky, donc chapitre 10, versets 9 à 17 de l'épître aux Romains, vous avez trois fois le verbe « akouo » qui apparaît, qui a donné « acoustique okay. » et qui peut être traduit par « entendre », »,« comprendre », »,« obéir » aussi, dans le verset 16. Et vous avez trois fois le mot « akoué ». C'est un substantif qui signifie ce qui est entendu avec ses deux oreilles. Voyez la fin du passage. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est clair. L'apôtre Paul, sous inspiration, nous invite à partager oralement notre foi. À partager nos convictions par la parole, par ce qui est dit haut et fort, sans ambiguïté, sans confusion, sincèrement. Alors oui, il y a différentes façons d'annoncer Christ. Je le répète, la prédication, les lectures bibliques, les chants et les prières, au moment du rassemblement de l'Église. Mais ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui n'en bénéficient pas. Vos voisins, vos collègues, vos amis, les membres de votre famille qui ne sont pas là aujourd'hui n'en bénéficient pas. Alors comment entendront-ils parler de Jésus? Comment sauront-ils qu'il est mort pour le pardon de leurs péchés? Alors il y a les rites chrétiens, les baptêmes, les mariages, les saintes cènes, mais ce sont des occasions très rares, des occasions très rares. Et c'est vrai, ce matin, comme nous le faisons une fois par trimestre, nous allons célébrer la scène ensemble. C'est une façon d'annoncer Christ, c'est clair. En faisant ça, nous dit Paul, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous êtes donc ses témoins. Mais il va falloir prolonger cette annonce par une parole, ou l'accompagner déjà d'une parole. Voyez, il ne suffit pas de faire ça pour soi et entre soi. Il le faut aussi pour les autres. Cette parole incarnée dans le pain et le vin doit être partagée avec les autres, doit être annoncée aux autres. Jésus, pain et vin, source de vie, eh bien, s'est donné au monde entier. Et l'Église est là pour le dire. Mais qui va le dire si toi tu ne le dis pas? Si moi je ne le dis pas, qui va le dire auprès, j'entends à côté hein, de cette propriété, et au loin? Alors, il ne suffit pas de garder la bonne nouvelle dans son cœur, encore faut-il la dire pour la partager. Et Jésus nous a donné son exemple personnel, un exemple de vie éloquent. Oui, il guérissait, oui, il venait au secours des gens, oui, il soulageait, oui, il rendait visite, oui, il rendait service, mais il avait toujours une parole. Une parole pour dire le royaume, ou une parole pour dire sa messianité, une parole pour exprimer l'amour de son Père. Jésus n'a pas couru en vain. Certains ont peut-être lu le titre de ma prédication. C'était, et c'est toujours, jusqu'à la fin de la prédication, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Il y a deux façons de courir. Autrement dit, d'accomplir sa course chrétienne. Sans mot dire, sans mot, M-O-T, dire, en deux mots, et donc sans mot dire aussi, en un seul mot. Et en exprimant ce que l'on vit et ce que l'on a dans le cœur. Prenez avec moi dans votre Bible un passage de 2 Samuel, qui se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 18. De Samuel, à partir du verset, donc chapitre 18, verset 16. Vous allez là découvrir deux façons de courir. À partir du verset 16. Joab fit sonner de la trompette. Joab était un général, un chef d'armée. Et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le meneur donc de la révolte, de la guerre civile, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand nombre de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Continuons. Achimatz, fils de Tsadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendue justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui ces nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Cushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. » Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimatz, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Mais quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » « Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Achimatz. Et Joab lui dit, « Cours, puisque tu veux courir. » Achimatz courut par le chemin de la plaine et devança Cushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul !» Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimatz, fils de Tsadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. » Achimatz cria et dit au roi, « Tout va bien !» Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes, qui levait la main contre le roi, mon seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Achimatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et voici, et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. » Bon, et le roi dit, « Mets-toi de côté. » Et Achimatz se tint de côté. Aussitôt arriva Cushi, et il dit, « Que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. » « Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Cushi, « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé ?» Cushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « mon fils Absalom. » Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Oui, il y a bien deux façons de courir. Dans le film Forrest Gump de Robert Zemeckis, sorti en 1994, le personnage incarné par Tom Hanks est censé avoir parcouru un total de environ 24 000 km d'un océan à l'autre à travers l'Amérique, après avoir eu le cœur brisé par son amour d'enfance Jenny. Dans le film, les journalistes lui demandent « Mais pourquoi faites-vous cela? Courez-vous pour les droits de la femme, pour la paix dans le monde, pour les sans-abri, pour l'environnement, pour les animaux ?» Et Forrest Gump de répondre « Pour aucune raison particulière, je sais simplement que je cours. » À la fin de sa course, Forrest n'a rien d'autre à dire que « Je suis un peu fatigué. » Je crois que je vais rentrer à la maison. » Et en face, les gens s'interrogent, mais qu'allons-nous faire maintenant? Ils sont tous perplexes, confus. Il n'a rien à dire. Il a couru sans but, sans savoir où il allait, ni pourquoi il courait. Et c'est la déconfiture. Vous le savez, il s'agit d'une fiction. Mais retenez que Forrest Gump a couru en vain. Il a couru pour courir. À la fin de sa course, il n'avait rien à dire. Tout comme Achimatz, il a couru pour courir, pour se faire remarquer en courant. Ah, il a bien couru. Il a même couru plus vite que l'officiel, Cushi. Mais il n'avait rien à dire. Et c'est pour ça que le roi lui demande de se mettre de côté. Il n'a rien compris. Ah, un tumulte, ok, très bien, mais à part ça, la victoire ou la défaite? Et mon fils, est-il vivant ou mort? On ne sait pas. Rien de très clair. Terry Fox, lui, est né le 28 juillet 1958 à Winnipeg, au Canada. Lui, là, on est dans le réel, pas dans la fiction. Et en 1977, on découvre qu'il a le cancer des os. Donc, il est encore bien jeune, n'est-ce pas? Et ses jours sont menacés. En avril 1980, il commence à courir le marathon de l'espoir. Pour lever des fonds afin de soutenir la recherche sur le cancer, il traverse le Canada en courant et récolte 24 millions de dollars. Le plus extraordinaire, c'est qu'il n'avait plus qu'une seule jambe, l'autre, la jambe droite, ayant dû être amputée. Il avait prévu de parcourir une quarantaine de kilomètres par jour, mais handicapé par de sévères migraines, par la neige, le verglas, donc les mauvaises conditions météo, il n'est parvenu, après un mois de course, qu'à couvrir une douzaine de kilomètres par jour. Malgré tout, il a réussi à parcourir 5374 kilomètres avant d'être contraint de s'arrêter lorsque ses poumons ont à leur tour été touchés par le cancer. Il est mort le 28 juin 1981, à 23 ans. Terry Fox. Mais depuis lors, on continue de lever des fonds pour lutter contre le cancer lors de la Terry Fox Run, qui est une course de fonds d'ampleur nationale désormais. Vous pouvez le voir. Il a des monuments qui portent son nom un peu partout dans le pays. Pourquoi donc persévéra-t-il ? Parce qu'il avait un but. Il a couru jusqu'à la mort. Il savait pourquoi il courait. Le but qui s'était fixé, qui embrassait son cœur, était bien plus fort que la douleur. On pouvait l'amputer d'une jambe, mais pas de son esprit, pas de sa détermination. Il continuerait à courir. Terry Fox était un chrétien convaincu, qui avait quelque chose à dire au monde. Jésus est mort pour vaincre le cancer, pour vaincre toutes les maladies, pour vaincre le péché et finalement la mort. Il a achevé donc sa course, cet homme, une course victorieuse. Dans la mort en Jésus. Voyez les parallèles ? Hashimatsu et Kushi ont couru tous les deux pour aller dire au roi que, a priori, donc, la guerre est gagnée. Mais un seul des deux a le courage, finalement, d'annoncer la mort du fils. La mort du fils, tiens. Vous n'avez pas un rapport avec ce que nous avons lu concernant la scène ? En célébrant la scène, nous annonçons la mort du Fils. Et l'apôtre Paul nous invite aussi, par la parole, à annoncer la mort du Fils. La mort du Fils de David, oui, c'est une mort paradoxale. Absalom. Elle est à la fois dramatique, déchirante, douloureuse, parce que le roi aurait voulu qu'il reste en vie. Et c'est pour ça qu'il gémit, se lamente lorsqu'il apprend que son fils est mort, sa chair, son sang, sa postérité. Mais en même temps, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Parce que s'il ne mourait pas, c'était David, la tête d'Israël, qui allait mourir. La mort du Fils est le signe de la victoire et le signal du retour à Jérusalem du roi exilé. Voyez le paradoxe ? Il en est de même pour la mort du Christ. C'est une mort déchirante, une mort que personne n'a voulu, même pas le Père, mais à laquelle il a consenti pour que la victoire soit certaine. Et ce n'est que dans la mort du Fils que la victoire a été proclamé. Pourquoi tu cours ? Toi, pourquoi tu mènes une vie chrétienne ? Pourquoi je cours ? Pourquoi courons-nous ? La question est la suivante. Est-ce qu'en dehors de ces quatre murs, nous avons le courage de dire quelque chose ? Est-ce que j'ai le courage de dire quelque chose ? De dire pourquoi je suis chrétien, pourquoi je cours vers le royaume des cieux, quel est le but de ma vie, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui fait que je vis différemment, Je gère différemment mon temps, mon argent, mes talents, ma santé. Pourquoi ? Est-ce que tu es capable de le dire ? Est-ce que tu as le courage de le dire ? Ou est-ce que un jour tu vas t'arrêter là, comme Forrest ? Je suis fatigué. Je suis là, j'en peux plus, je ne sais pas pourquoi je vais à l'église. Pourquoi ? Je suis adventiste. Pourquoi j'observe le sabbat du septième jour ? Voyez ? Je crois que je vais rentrer chez moi, ou rester chez moi. C'est un peu aussi la façon dont Achimatz a couru. À la fin, il arrive. Et le roi ne comprend pas ce qu'il a à lui transmettre. Aucune annonce claire. C'est confus. Pourquoi tu cours ? Qu'est-ce que tu as à dire concernant le salut en Jésus-Christ ? Il arrive que nous n'avons pas le courage d'annoncer la mort du Fils de Dieu aux personnes qui appartiennent à notre entourage et dont nous souhaitons la conversion et le salut. Or, une telle annonce est essentielle, autrement nous aurions couru en vain. Nos programmes, nos activités ne servent à rien si nous n'annonçons pas clairement la mort de Jésus et l'amour de Dieu. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix en Jésus, bien sûr, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il ne faut pas que ça reste bloqué là, à l'intérieur, mais que ça puisse sortir. Nous voulons annoncer Christ ensemble, mais que ça ne se limite pas à une sainte scène, une prédication, une présence même régulière dans ce lieu, chaque semaine. Qu'avons-nous à dire ? Alors peut-être un exercice très simple, suivant. Est-ce que vous êtes en capacité de dire à la personne qui est à côté de vous, et elle vous répondra la même chose, Jésus est mort pour toi, Flavie, Jackie. Faites-le, tournez-vous vers une personne qui se trouve à côté de vous et dites-lui, Jésus est mort pour toi, en ajoutant son prénom pour personnaliser le message. C'est plus qu'un exercice, c'est une réalité, c'est une évidence, mais le fait de le dire, c'est tellement beau. Oui, Jésus est mort pour toi Martine, pour toi Jean, pour toi Paul, pour toi, etc. Il est mort pour toi, il a donné sa vie pour le pardon de tes péchés, c'est la preuve que Dieu t'aime et qu'il veut que tu vives éternellement. Vous voyez, c'est pas long, mais c'est puissant, c'est simple et puissant. Nous allons, dans un instant, nous séparer pour vivre un temps de, justement, de chaleur, de rapprochement fraternel. Et quand vous reviendrez, après le service d'ablution des pieds, eh bien vous prendrez ce livre. Il est à la disposition de tous. Ça s'appelle « Implication totale, tous en mission », écrit par Alejandro Bullón. Et vous aurez dedans un petit plan de lecture. Et ce serait bien que nous le lisions tous durant ces 40 jours dits de prière, qui sont donc ceux planifiés par notre Église dans le monde entier. Nous ayons l'occasion de le lire avant Noël, pour nous motiver à partager tout simplement cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour toi, pour le pardon de tes péchés, parce que Dieu t'aime et veut que tu vives éternellement. Donc quand vous reviendrez après l'ablution des pieds, les femmes vont descendre, les hommes vont se retrouver dans l'école primaire d'Ulysse, qui se trouve à côté du bâtiment, eh bien, vous recevrez un livre. Prenez-le, il est pour vous, il vous est offert par notre fédération, et lisez-le. Il va vous motiver, il va vous faire beaucoup de bien. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le petit signet, vous savez, avec les 5 cases vides que vous devez remplir en y mettant les noms des personnes pour lesquelles vous voulez prier, eh bien, ceux qui n'ont pas encore reçu ce signet le recevront à ce moment-là. Voilà, donc j'invite les hommes et les femmes à se séparer. Les autres resteront ici, notamment les plus jeunes, pour une histoire.